This is the sound of an express service from Mercedes-Benz Cars. Two of our expert technicians working exclusively on your Mercedes-Benz while you sit back and enjoy a complimentary coffee on us. All it takes is as little as an hour of your day. The whole process is quick, easy, and hassle-free. Get an instant quote online and book a time that suits you. Simply search my service and book yours today. And before you know it, you'll be on your way. Subject to the service required at participating retailers only. Terms and conditions apply.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et surtout on est bien quadrillé par le coach aussi.
Si j'aurais marqué mes deux pénaux aussi, je serais meilleur buteur déjà. Allez, décide. Comme je l'ai dit l'autre fois, je serai au Real.
Jusqu'à minuit,
c'est l'Afterfoot, François Pinet.
Encore une heure à passer ensemble dans l'After. L'After qui continue toujours avec François Manardeau, Jonathan Macardy, Damien Perrinel. Si vous voulez participer au quiz de l'After, vous inscrivez dès maintenant au 32-16. Vous avez encore trois quarts d'heure pour vous inscrire avant donc ce quiz. Et on va dans un instant revenir sur la 20e journée de Première Ligue avec Julien Laurence. Juste un mot quand même sur ce qu'on vient de faire, le 11 de la décennie. Quelques messages sur l'appli Direct Studio. Ribéry, il a existé quand même, nous dit Nico Panam. C'est vrai que pour faire des choix, c'est pas facile, mais Ribéry, il aurait pu facilement faire partie de cette équipe-là.
Oui. Sur le début de la décennie, oui.
Personne n'a donné ses chouchous alors.
Donald qui nous parle de Godin également, qui aurait pu faire partie de cette. Pardon ? Oui, moi j'ai un peu mélangé.
T'as mis du chouchou, toi ?
J'ai mis un peu du chouchou. Pirlo, Buffon, j'avoue que c'est un peu chouchou. Et toi, Jonathan, t'avais du chouchou ?
Moi, j'avais fait une équipe avec que des foufous.
Bah, vas-y, six ans, un ou deux.
J'avais fait une équipe avec Joey Barton, avec André Pierre Gignac, avec Gary Medel.
Ah oui, d'accord.
C'est une équipe qui finit pas à 10.
Une équipe même pas à 10. 66, quoi.
Voilà, c'est ça.
Avec Charles Aranguis pour la technique, Renato derrière, même si. Voilà.
Ah oui, d'accord. Ok. Et d'autres.
Moi, j'avais un petit milieu très très tricolore que j'avais un peu connu, Las Diarra, Toulalan, et puis Gourcuff, ça, à la pointe du triangle pour organiser.
Ah oui, c'est le cœur.
Le jeu.
Mais ouais. Le Gourcuff.
Cette équipe-là n'est pas sûre de gagner tous les matchs. On est d'accord quand même.
Non, mais on parle du cœur.
Oui. Ah là là, mais quand Gourcuff il était à un bon niveau, quel joueur c'était.
Gourcuff, oui, mais c'est sur une décennie.
Je crois que c'est de la décennie, c'est la plus grosse déception.
Ah peut-être. On devrait faire bien le 11 flop ou le 11 déception.
Parce qu'il a été tellement fort.
Très bien, merci.
Non mais il a été tellement fort, tellement fort. François, je pense que t'as été un tellement privilégié quand il met le but en Roumanie, la frappasse de Müller. Il était tellement fort et peut-être devenu aussi nul. Mais c'est un truc, c'est incompréhensible.
Rapidement, sur le but de l'égalisation en Roumanie, qui est une frappe de presque 30 mètres comme ça, qui arrache le nul pour les Bleus, ça finit 2-2, donc on joue à Constanza, et on était très 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 près du public, on s'est fait insulter, enfin nos mères en ont pris pour leur grade pendant tout le match, quand Gourcuff a mis le but, on a sauté très haut, on s'est retourné, je pense que le public romain qui était près de nous, il comprend peut-être pas le français, mais il a compris qu'on n'était pas très sympa et assez vulgaire sur ce coup-là aussi. Ouais.
Et Damien, toi t'avais peut-être un nom ou deux, non ?
J'ai dû faire plaisir à Jonathan, moi c'est Thiago Silva derrière. Et Benjamin Nivet au milieu.
Bien sûr. Mais lui, c'est l'équipe du siècle. Il a tenu beaucoup plus qu'une décennie. Ouais. Sa carrière a duré très très longtemps.
En coup de cœur ?
Ouais.
Bon. Tiens, je vais mettre mon coach de New York, Jesse March.
Ok.
J'avais mis le meilleur entraîneur français en activité, Jean-Marc Furlan.
Bien sûr. Bonne idée. On va tout de suite retrouver Julien Laurence pour la 20e journée de Première Ligue. Salut Julien.
Salut à tous.
Salut Julien. Parti sur les 11 de la décennie. Hein, voilà.
Et on est arrivé à Nivet.
Il n'y a pas beaucoup d'anglais. Moi, en coup de cœur, j'aurais pu mettre Wayne Rooney quand même. Pour te faire plaisir, Julien, mais aussi parce que.
Moi, j'ai mis Joey Barton.
C'est un super joueur.
Oui.
Il joue toujours Barton ?
Non, il est entraîneur.
Il est entraîneur à Fleetwood en 3ème division.
Mais il s'amuse plus à mettre des nions dans le nez des autres entraîneurs dans les couloirs, apparemment.
Il y a eu une petite altercation. Bon, c'est rien. Connaissant Joey comme je le connais, c'est. Ah bon. C'était rien, ça, par rapport à ce qu'il aurait pu faire ou tout, ce qu'il a fait par le passé. Oui, non, ça, c'est rien.
Ah, mais c'est quand même drôle d'avoir des gens comme ça pour idole, Jonathan.
On va pas faire.
Parce que c'est un chic type et c'est un mec qui est brillant.
Jonathan sur le divan.
C'est un mec qui est brillant, je suis désolé. C'est intellectuellement, c'est un mec qui est brillant.
On attendra pour la psychanalyse de Jonathan.
C'est brillant, Joey Barton.
Je le connais très très bien. C'est quelqu'un qui est brillant, qui a son caractère, bien sûr, et qui est très impulsif, comme on a pu le voir. régulièrement par le passé, mais c'est quelqu'un vraiment d'intelligent, de passionné, de passionnant aussi. Et j'espère qu'il réussira dans sa nouvelle carrière d'entraîneur parce que c'est quelqu'un vraiment très intéressant.
Alors on va parler de coach justement et puis de matchs bien sûr qui se sont déroulés aujourd'hui pour la 20e journée de Premier League. On va commencer par le match qui vient de se terminer entre Manchester United et Burnley. La victoire de Manchester 2-0 avec un nouveau but d'Anthony Martial. Il n'y avait pas de Pogba qui était absent, donc on va d'abord parler peut-être du présent d'Anthony Martial. Encore une bonne performance pour lui ce soir ?
Très bien, oui, son 10e but de la saison en Premier League. Son duo avec Rashford qui s'améliore de match en match, qui devient de plus en plus fort, de plus en plus intéressant. C'était leur 16e titularisation commune cette saison en Premier League. Ils ont marqué 19 buts tous les deux, 10 pour Martial, 9 pour Rashford. C'est vrai que quand t'en as un qui joue dans l'axe, l'autre qui joue sur le côté gauche pour Rashford, Martial dans l'axe, il se trouve très bien. Quand en plus tu rajoutes un Daniel James qui a été très bon aujourd'hui par sa vivacité, par ses courses, c'est vrai que offensivement, quand tu peux jouer un petit peu en contre, quand t'as des espaces, c'est vrai que ça peut faire très mal et c'est ce qui était le cas ce soir. C'est bien. Alors ils sont encore inconstants, ils gagnent, ils perdent. On l'a vu notamment à Watford avec cette défaite 2-0, très difficile à expliquer. Mais quand même, il y a quand même des choses très positives à prendre pour Solskjaer dans cette équipe, même si après on peut toujours débattre sur Solskjaer et sa capacité à amener cette équipe un peu plus haut. Mais en tout cas, offensivement, entre Martial et Rashford, ça marcherait très bien.
Et puis là, au classement, ils sont plus très loin de la quatrième place, même si Chelsea a un match en retard qu'ils joueront demain contre Arsenal. Ils sont à un point seulement, Manchester cinquième, à un point de Chelsea. Donc ça donne sans doute des idées à Solskjaer. Sur Martial, juste rapidement, il a mis du temps quand même à éclore. Là, on a l'impression que ça y est, là, il s'installe dans cette équipe de Manchester, Jonathan et Damien.
Oui, il s'affirme, comme on le disait, je crois que hier ou avant-hier. Le problème de Martial jusqu'à présent, c'était sa régularité dans la performance. C'est-à-dire que parfois, pendant un mois, il était au top et puis ensuite, il disparaissait des radars. Là, on sent vraiment, depuis son retour en Europa League, il me semble mi-novembre ou fin octobre, on sent un Martial qui retrouve pleinement ses moyens physiques et qui fait mal. Et rien que dans les courses, justement, on voit la différence avec le Martial.
L'Euro 2020, pour lui. C'est ce que j'allais dire. C'est typiquement le genre de joueur, on sait que Deschamps l'aime bien, qui s'intégrerait parfaitement dans ce que Deschamps met en place. C'est un joueur Deschamps compatible à 100%.
Ah, mais il l'a déjà eu, pourtant. Et d'ailleurs, il l'avait pris pour l'Euro. Et souviens-toi, ça ne s'était pas très bien passé.
Parce qu'il était encore titulaire.
Des problèmes dans l'attitude.
Ouais.
Des problèmes dans l'attitude qu'il a toujours eu partout, en équipe de France et à Manchester United.
Mais il y a du mieux là, quand même.
Ouais, il est en train de mûrir, sincèrement. Après, c'est des petits détails. Le fait que, par exemple, au départ de Romelu Lukaku cet été à l'Inter, que le club et Ole Gunnar Solskjaer décident de lui redonner le numéro 9, qui avait jamais été son numéro au club. Et pour quelqu'un comme Martial, par exemple, qui marche énormément à l'affectif, d'avoir cette responsabilité de porter le numéro 9 à Manchester United, ça lui a donné un surplus de motivation, un surplus de confiance aussi, et cette maturité-là un petit peu, de le fait de le repasser dans l'axe, alors qu'avant, c'est vrai qu'il jouait dans l'axe, parfois sur un côté, parfois dans l'axe, etc.
Bien sûr, Julien,
ça a aussi le stabiliser dans cette position-là, ça l'a beaucoup aidé.
Tu sais, Julien, en fait, le pire dans tout ça, c'est que je te crois, c'est-à-dire que le fait qu'il ait le numéro 9.
Merci.
Je vais te donner la raison, c'est qu'en gros, il ait besoin de ça pour se sentir en confiance quand même.
Oui.
C'est-à-dire que
Ça fait peur.
Mais bien sûr, en soi, je veux dire, parce que t'as pas le numéro 9 dans le dos, alors ça veut dire que tu vas pas.
Non, mais tu les connais, ces détails chez les joueurs, Damien, tu les connais.
Tu as raison, et c'est pour ça que je valide ce que tu dis, en plus, c'est ça le pire.
Mais je pense qu'il y a aussi autre chose, les gars. Et Julien, je pense que vu certains types de tabloïds que vous avez en Angleterre, je pense que le fait aussi que sa vie personnelle soit un petit peu moins bordélique, un petit peu moins exposée aux yeux des réseaux sociaux et tout, je pense que ça l'a peut-être aidé, non? Aussi.
Oui, sûrement. Et puis c'est vrai que il y a une interview de sa femme dans l'équipe ce matin sur dans leur série sur les Wags. Oui. Très intéressante d'ailleurs. Elle met un petit tac à Mourinho que les tabloïds anglais justement ont repris en faisant les gros titres et tout ça. Mais ça, je pense qu'elle s'y attendait. Mais après, oui, effectivement, que dans sa vie privée, ce soit beaucoup plus stable, ça a dû l'aider aussi. Après, il faut maintenant qu'il soit plus blessé. Et je pense qu'il peut vraiment faire une très bonne deuxième partie de saison.
Julien, tu nous parles de maturité. Sa maturité, elle risque fort d'être mise à l'épreuve à l'occasion de l'Euro si le sélectionneur le prend, parce qu'il en fera pas un titulaire.
Ah, ça c'est sûr.
Et c'est là qu'Anthony Martial doit comprendre le rôle qu'il peut être amené à jouer, non seulement quand il aura du temps de jeu, mais aussi dans la vie d'un groupe à l'occasion de 5 ou plus, surtout plus, je l'espère, semaines passées avec ses coéquipiers.
Ouais. Et c'est là qu'il faudra qu'il montre justement qu'il a appris de l'Euro 2016 où effectivement ça avait été un petit peu compliqué dans la vie de groupe.
Alors, on va parler de Tottenham. J'avais pas envie spécialement qu'on commence par la vidéo, mais c'est quand même l'un des faits majeurs de cette rencontre. Un but annulé, et c'est pas le premier de cette journée. Il y a eu plusieurs cas de buts annulés à cause de hors-jeu très très litigieux. L'arbitrage vidéo en Angleterre, alors nous on est très critiques là-dessus en France, mais en Angleterre j'imagine que ça doit faire aussi la une des journaux.
Ouais, c'est encore pire effectivement, et quand t'as une journée comme aujourd'hui où effectivement dans quasiment tous les matchs, ou en tout cas pas loin, on a des incidents comme ça ou des problèmes avec la VAR, enfin problème avec la VAR, ça dépend sur...
Oui, ça dépend si tu es pro ou anti-VAR, voilà. Oui, c'est sûr.
Exactement, parce qu'effectivement, il y a des hors-jeux, que ce soit celui de Pukki pour Norwich contre Tottenham, pareil lors du match entre Brighton et Bournemouth, le premier match de la journée en début d'après-midi, où c'est pareil, il y a un but pour Brighton qui est refusé pour sincèrement, je sais pas, 2 centimètres peut-être sur un hors-jeu. Donc effectivement, ça a fait beaucoup parler. Alors ce qui énerve le plus les Anglais, je pense, c'est la façon dont la VAR fonctionne ici, c'est-à-dire que les arbitres ne vont pas voir eux-mêmes l'écran sur le bord du terrain pour se faire eux-mêmes leur idée ou changer leur décision.
Julien, sur un hors-jeu, c'est pareil en France, hein. Sur le hors-jeu, c'est soit on leur dit hors-jeu ou pas hors-jeu, et ils ont pas à se déplacer. Tu vois ce que je veux dire?
Non, je sais bien. Non, je parlais pas spécifiquement pour l'hors-jeu, mais la grosse controverse ici, c'est que finalement les gens ne comprennent pas comment l'arbitre qui est sur le terrain dans ce contexte-là, avec le stade autour de lui, ce ne soit pas lui qui décide au final pour un pénalty par exemple, ou pour une main, enfin je sais pas.
Donc,
quoi.
Julien, tu nous dis une chose pour que ce soit clair. Moi j'ai cru voir des moniteurs bord terrain, donc ils les ont mais ils ne vont pas les consulter.
Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que quand la première ligue a décidé d'appliquer la VAR, de prendre la VAR pour la première ligue, comme les Anglais ne font jamais rien comme les autres, ils ont dit nous on va faire nos propres règles de la VAR, et une de ces règles là notamment est que l'arbitre n'ira pas voir l'écran, n'ira pas voir le moniteur lui-même. C'est quelqu'un qui est donc dans son car régie, oui. Ou enfin dans, oui, un bureau, ouais, ouais. Pour ce cas là à Stockley Park, qui va lui dire s'il y a main, s'il y a pas main, s'il y a penalty, s'il y a pas penalty, s'il est à retirer parce que quelqu'un est rentré dans la surface trop tôt ou quoi que ce soit. Donc voilà, et c'est le gros problème ici, c'est que les gens comprennent pas pourquoi c'est pas l'arbitre qui prend au final la décision d'un match qu'il arbitre lui-même, et donc on se demande qui arbitre finalement.
Mais c'est contraire aux règles. C'est contraire aux règles. C'est le central qui a toujours le mot de la fin, même si après, dans les faits, ça se passe un peu différemment. Mais là, t'es en train de nous dire qu'en fait, en Angleterre, il y a deux arbitres. Il y a le central et le VAR, mais qui ont exactement le même niveau hiérarchique.
Sauf que celui qui prend la décision la plus importante, la plus cruciale, puisque c'est celle de la VAR, c'est quelqu'un qui n'est pas au stade, qui n'est pas sur le terrain, qui voit le match à la télévision, et qui donc ordonne à l'arbitre central qui lui est sur le terrain de prendre telle ou telle décision.
Bon, en tout cas, on a vu le hors-jeu là de Pukki, c'est terrible en plus parce que le joueur il fait un super appel.
Ouais, et puis surtout il y a un super ballon.
Super ballon, super appel, tout est parfait et ça se joue à 1 mm.
Mais justement après, Julien, au-delà de la VAR et tout ça, on va peut-être parler aussi de la défense de Tottenham.
Oui, on va en parler.
Qui a vraiment...
Donc 2-2 hein, contre le dernier Norwich. Hein.
2-2 et puis des placements approximatifs. Alors... C'est vrai qu'il y a le but un peu gag contre son camp de Serge Aurier. Mais au-delà de ça, son placement initial où il préfère protéger un côté et ne pas resserrer l'axe, c'est de laisser un espace incroyable au sein de la défense centrale. Je veux dire, c'est juste incroyable. Et pareil pour Toby Alderweireld qui lui ne protège pas l'axe ballon but et qui préfère prendre un appel et laisser un mec tirer tranquille comme un penalty aux 16 mètres des buts adverses. C'est dingue en fait ces comportements.
Tout à fait. Et alors quand tu connais en plus Mourinho et le style Mourinho et la façon de travailler de Mourinho, qui a toujours fait de ses équipes avant tout des équipes solides, de voir notamment, si tu regardes les stats, ils ont toujours au moins encaissé un but depuis son arrivée. À part contre Burnley où ils ont gagné 5-0 à domicile, et effectivement bon là il y avait en face, c'était très très faible, mais sinon à chaque fois c'est un but, deux buts encaissés, même contre l'Olympiakos par exemple, trois buts contre le Bayern, bon ça dans un match comme ça, mais Wolverhampton a marqué, Chelsea a marqué bien sûr deux fois, Brighton a marqué, Norwich mais encore deux,
c'est incroyable. À la fin du match, Mourinho, c'est la plus mauvaise défense je crois de Première Ligue depuis que Mourinho est arrivé,
exactement, c'est ça. Et Mourinho après le match a encore dit, je comprends pas ces erreurs qu'on fait, c'est toujours les mêmes, on prend toujours les mêmes buts. Il avait essayé de changer un petit peu en passant à une défense à 3 aujourd'hui, ça a duré que la première période, ça a duré 45 minutes, après il a tout changé. C'est difficile à comprendre parce que au moins s'il sacrifiait le côté défensif pour jouer beaucoup mieux offensivement, pour aller vers l'avant, mais c'est même pas le cas en plus. Donc il joue pas très bien offensivement, même s'il marque des buts et il gagne quand même des matchs, mais c'est assez pauvre dans le contenu finalement. Et en plus, ils sont, c'est une passoire derrière et ils sont un peu à la rue défensivement. C'est vraiment difficile à comprendre sur quoi, ou en tout cas l'axe de travail principal de Mourinho depuis son arrivée au club.
Alors Tottenham 6e avec 2 points de retard sur la 4e place sur Chelsea, mais qui a un match en moins, on l'a dit, contre Arsenal. Un mot quand même sur Ndombele qui était titulaire. C'est une petite surprise après les déclarations de Mourinho où en gros il a fait comprendre que Ndombele voulait pas spécialement jouer le match précédent et ça lui avait pas spécialement plu. C'est un peu surprenant de le retrouver sur le terrain.
Complètement. Il y a 2 jours, donc, il a dit, il a absolument matraqué en conférence de presse en disant qu'en gros, dans l'attitude, c'était absolument un moins que rien. Contrairement, par exemple, à un Lamela qui s'était pas entraîné pendant 50 jours et puis qui était allé voir Mourinho en lui disant, moi, je suis prêt à mourir sur le terrain pour vous, à tout donner pendant 10 ou 15 minutes. Et en racontant cette anecdote-là, Mourinho mettait un gros tacle à Ndombele. Aujourd'hui, il est titulaire et à la fin du match, il dit, il a été phénoménal. Il aurait mérité d'être homme du match. Typiquement Mourinho dans le... Dans le contexte. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Et c'est bien pour Ndombele. C'est vrai qu'il a été, moi j'ai trouvé qu'il a été bon. Mais de toute façon, c'est ce qu'on disait hier ou avant-hier dans l'émission. C'est tout ce qui manque à cette équipe de Tottenham qui, dans la créativité, a du mal parce qu'Eriksen est souvent sur le banc puisqu'il est en fin de contrat et que Mourinho le fait pas jouer ou très peu ou en tout cas il le fait que entrer en cours de jeu. Et Ndombele, par sa capacité de percussion avec le ballon, à franchir les lignes, à faire des différences, etc., c'est exactement ce qu'il leur faut. Et pourtant, Mourinho, on a fait une gestion très bizarre en le faisant débuter que 2 matchs sur les 10 qu'il a entraîné depuis son arrivée.
Faudrait pas que ça soit un nouveau Pogba, quoi, comme avec les rapports conflictuels qu'il avait pu avoir avec Pogba.
Faudrait pas que ça se tende trop, tout à fait.
Ouais. Et puis, un mot quand même d'Everton, qui s'est imposé pour la deuxième fois, deuxième victoire en 2 matchs pour Carlo Ancelotti. Victoire 2-1 à Newcastle avec un doublé de Calvert-Lewin, qui est le seul buteur d'ailleurs sous l'ère Carlo Ancelotti pour l'instant. Everton, 10e du classement, donc ça va bien du côté d'Everton.
Oui, ils ont trouvé le sourire, effectivement.
A changé les choses, ça se voit d'ailleurs, il y a déjà une patte Ancelotti.
Alors pas trop dans le jeu, il a encore changé de système tactique dans le match d'aujourd'hui. Il avait fait une défense à 3 contre Burnley pour son premier match où ils avaient gagné 1-0. Cette fois, il était repassé à une défense à 4, un 4-4-2 un peu plus traditionnel en essayant de relancer Moise Kean, le jeune attaquant italien qui était titulaire en pointe. Mais ça a encore fonctionné, tu sens quand même qu'il aura redonné confiance. Ils sont assez solides défensivement, même si là contre Newcastle c'était un peu dur parce qu'en face j'ai trouvé ça encore moyen. Mais c'est vrai que 6 points en 2 matchs, comme tu dis, remonte un petit peu au classement. Et puis il y a cette dynamique quand même positive sur laquelle il va construire. Alors il a des matchs très quand même très compliqués qui vont arriver pour lui, que ce soit en championnat.
Il voit Man City là.
Voilà, il y a Manchester City et puis après il y a Liverpool en Coupe d'Angleterre aussi, donc 2 énormes matchs. Ça a peut-être un petit peu changé, mais c'est vrai que au niveau de la confiance et de la dynamique un peu positive, c'est exactement ce que Carlo voulait faire. Il a réussi sur ses 2 premiers matchs.
Et Djibril Sidibé, alors ça c'est, il avait été énorme lors du dernier match. Aujourd'hui, c'était comment?
Oui, c'était pas mal encore. Hein. C'était pas mal. Ouais. Il y a quelques bonnes montées. Il est intéressant avec le ballon, forcément, par rapport à ce qu'il peut faire, notamment sur ses centres. Il en était à 4 passes décisives sur ses 6 dernières titularisations avant le match d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, c'est pas mal. Il est moins décisif. Non, mais on se moquait un petit peu l'autre jour en rigolant par rapport à Seamus Coleman qui avait perdu sa place sur Sidibé. Mais il monte un petit peu en puissance et il a cette clause pour que son transfert soit permanent à 15 millions d'euros. Et je pense que pour un arrière droit comme lui, si Carlo Ancelotti continuer à le faire progresser, ça peut être intéressant pour Everton.
Puis surtout intéressant pour l'équipe de France. Hein.
Si aussi, tu es... tout à fait.
Non, oui. Tu n'es pas sûr.
Oui, si, en doublure, pourquoi pas.
En doublure de Pavard.
Bah, de toute façon, on sait très bien que ça ne bougera pas. Hein. Il y a une forte chance pour que
moi, je suis ravi de le revoir revenir à un bon niveau quand même. Parce que c'est quand même, je pense, potentiellement le meilleur latéral droit qu'on a dans le réservoir de l'équipe de France. Et puis si en plus il arrive à faire en sorte que Seamus ne sorte pas de l'équipe pour qu'il garde le rythme pour nous qualifier à l'Euro, tout va bien. Hein.
Après Julien, moi ce qui me dérange un peu dans ce Everton, c'est la manière dont ils ont été mis en difficulté de manière assez simple en soi, parce que c'est vrai que le plan de jeu de Newcastle, c'était de mettre des longs ballons sur Andy Carroll et de jouer les déviations d'Andy Carroll qui gagnait tous ses duels aériens de toute façon.
Et Joe Ellington aussi, ouais, les deux, voilà, les deux,
exactement.
Ouais, les deux géants.
Ouais. Et c'est vraiment c'est assez basique, ils ont été mis en difficulté sur ces ballons là quoi.
Après il faut peut-être relativiser par rapport à ce rythme complètement dingue et débile aussi de cette période du Boxing Day où tu vois des choses en défense. Peut-être que si les joueurs avaient un peu plus de lucidité parce qu'ils sont un peu plus en forme, on ne verrait pas des aberrations défensives comme on en a constaté.
Ah oui, tu crois que c'est une question de rythme ça?
Non, de rythme, non, pas de rythme. C'est juste que t'es cramé. Quand t'es cramé,
tu
vois un peu moins clair.
Quand tu prends
des choses sur Tottenham.
L'exemple que je te donne là, sur c'est juste, au bout d'un moment, il faut avoir un peu du jeu. Tu vas pas au duel avec lui parce que de toute façon, tu sais qu'il va gagner tous les duels et tu t'occupes de ce qui se passe autour. Mm. Et là, non, on veut aller dans l'erreur encore une fois. Et voilà, je trouvais ça assez simpliste en fait comme plan de jeu et ça les a mis en difficulté.
Alors, je vous donne les autres résultats. Leicester qui s'est imposé à West Ham. Il y a cette information quand même ce soir. Pellegrini viré, hein, Julien.
Ah ouais, 9 défaites lors des 12 derniers matchs de championnat, dont les 4 derniers matchs à domicile. C'était la crise déjà. Encore une fois, on en avait parlé récemment. On en a parlé tout à l'heure dans l'émission aussi, un peu plus tôt, avant l'after, où je disais, avant que ce soit officiel, qu'il avait très très chaud et que c'était très possible qu'il saute ce soir. Ben voilà, c'est fait. Maintenant, à eux de trouver le bon remplaçant.
Il y a Leonardo Jardim qui est sur le marché.
Voilà, tout à fait, pour revigorer tout ça un petit peu. Beaucoup de sourires, beaucoup de joie de jouer, de joie de vivre hein, chez Leonardo Jardim. Donc je sais pas si c'est ce qu'il faut à West Ham, mais en tout cas ils peuvent pas se tromper, parce que mine de rien ils sont quand même 17e à un point seulement d'avance, avec certains matchs de plus à jouer, mais sur Aston Villa et 3 sur Watford. Mais ça peut être compliqué pour eux par rapport à la relégation et au maintien, donc il faut faire attention et il faut pas se tromper encore une fois pour trouver le bon entraîneur.
Manuel Pellegrini, quand même, c'est la descente aux enfers, hein. Je me souviens qu'il était à Manchester City, il a été demi-finaliste de Ligue des Champions, finaliste effectivement d'Angleterre. Au Real Madrid avant, voilà, c'est le déclin, mais Monaco aurait pu aller le chercher. À quelques heures près, hop, du coup, ils ont pris Robert Moreno. Non, ça vous emballe pas, Manuel Pellegrini.
Je parle même pas le même profil.
Brighton, Bournemouth 2-0, autre résultat, Watford qui s'impose contre Aston Villa 3-0 avec un nouveau but d'Ismaïla Sarr, l'ancien Rennais, et puis match nul entre Crystal Palace à Southampton, un but partout. Tu restes avec nous, Julien, surtout parce que on va parler de cette 20e journée, la suite. Demain, Arsenal-Chelsea, ça sera au programme. Et on revient aussi sur les difficultés de Manchester City, battu hier par Wolverhampton à Manchester City, méconnaissable. A tout de suite sur RMC.
RMC. L'Afterfoot. François Pinet.
23h23 bientôt sur RMC. On est encore ensemble pendant une grosse demi-heure pour parler de foot anglais. Dans un instant, on retrouvera Julien Laurence pour parler de la 20e journée de Première Ligue. Et puis, dans un instant, le quiz. Si vous voulez vous inscrire, si vous voulez participer, jouer avec Jonathan, Damien ou François, eh bien, vous inscrivez au 32-16 pour participer à ce quiz préparé par Arthur Robert. Mais d'abord, on revient donc sur la 20e journée de Première Ligue. Demain, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Wolverhampton et Manchester City, Sheffield au programme. On va commencer par ce qui était un choc il y a quelques années encore. Ce qui n'est plus vraiment un choc par la difficulté d'Arsenal, c'est Arsenal-Chelsea, Julien. La deuxième de Mikel Arteta à la tête des Gunners après le nul 1-1 contre Bournemouth. Et moi, j'avais été très surpris d'entendre la satisfaction. Alors, c'est de la communication évidemment, mais il était très satisfait de la rencontre de ses hommes, Mikel Arteta, après le match nul à Bournemouth.
Ouais, parce que donc c'est un match nul, un partout, mais là où je suis pas trop d'accord avec toi et plutôt d'accord avec lui, c'est qu'on a déjà vu des changements dans la façon de jouer.
Non, mais
je vais t'expliquer. Non, mais je vais juste t'expliquer pourquoi. Je comprends effectivement le résultat est pas très bon, même si c'est un match nul à l'extérieur dans le contexte actuel pour Arsenal, tu peux prendre. Mais dans la façon de jouer, dans le plan de jeu, dans le côté tactique de la rencontre pour Arsenal, il y avait des choses vraiment très intéressantes. Les joueurs l'ont ressenti, les joueurs me l'ont dit aussi. Et c'est vrai que t'as vu par exemple la position des latéraux très différente de ce qu'on avait pu voir avant, sous Emery, sous Ljungberg bien sûr, mais aussi sous Wenger. La façon dont ils repartaient derrière pour construire le jeu, pas systématiquement comme sous Emery, parce que parfois ils ont allongé, parce que c'est complètement suicidaire de vouloir jouer systématiquement depuis derrière, mais la façon dont Xhaka se positionnait en presque comme un arrière latéral gauche avec Davis Luiz et Socratis dans l'axe pour justement reconstruire de derrière, c'était intéressant. La façon dont Aubameyang et Ozil ont joué entre les lignes, voilà, les demi espaces côté droit pour Ozil, un peu plus côté gauche pour Aubameyang derrière Lacazette, il y avait plein de choses vraiment intéressantes. Il y a un autre truc que j'aime, par exemple, c'est que ce soir l'équipe s'est entraînée à l'Emirates, ce qu'il ne faisait jamais depuis très 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 longtemps, parce qu'Arteta a voulu que, avant un tel match comme celui de demain après-midi, et ben qu'il puisse trouver des repères par rapport à ce que lui veut que l'équipe mette en place demain contre Chelsea sur le terrain du match et pas au centre d'entraînement. Et je trouve que ça aussi c'est intéressant. Il amène des nouvelles choses. Ça ne veut pas dire que ça marchera et que forcément il va reconstruire très vite et que cette équipe pourra rivaliser de nouveau très vite avec Liverpool et Manchester City, mais au moins tu sens qu'il a des idées, qu'il change les choses un petit peu, que c'est un nouveau discours, un nouveau souffle, et ça je trouve que c'est intéressant.
12e de Première Ligue, Arsenal, 12e avec 24 points seulement.
Ouais, moi, Julien, ça va être une opposition de style intéressante, justement, parce que Arteta, qui prône, lui, un foot de possession. Et on sait que Chelsea est plus à l'aise lorsqu'il n'a pas le ballon, donc ce qui risque de se passer demain. Et donc, voilà, je voulais savoir ton sentiment, savoir si Arteta, va s'adapter aux qualités de Chelsea et peut-être, dans ce cas-là, leur laisser un peu plus le ballon.
C'est ça, il va falloir voir demain effectivement. Arteta avait joué en 4-2-3-1 contre Bournemouth. Est-ce qu'il va garder le même système demain ou changer justement pour s'adapter un petit peu, tu as tout à fait raison, au jeu de Chelsea qui en tout cas eux les Blues s'expriment beaucoup mieux quand ils ont un petit peu d'espace pour Willian, pour Pulisic, pour Abraham, pour Kovacic aussi au milieu de terrain, hein. Dès qu'il lui a un peu plus d'espace pour créer du jeu, c'est plus facile. En revanche, Chelsea a beaucoup plus de mal contre des équipes qui jouent assez bas avec un bloc bas plutôt bien organisé. On l'a vu contre Southampton lors du Boxing Day où ils ont perdu, pareil à domicile contre West Ham ou Bournemouth ces dernières semaines. Donc ce sera vraiment intéressant. Sur le papier, je pense que Chelsea est légèrement favori justement par rapport à ça, parce que ça devrait être un match qui leur convient mieux dans sa physionomie, en tout cas comme ça là en prévision de ce qui pourrait se passer.
Comme face à Tottenham.
Mais voilà, comme face à Tottenham. Ça
sera un
match
scénario,
intéressant. Ouais. Et ouais, exactement. Mais Arsenal en cas de victoire reviendrait à 5 points. De cette quatrième place et donc de Chelsea, et ça relancerait un petit peu cette course à la quatrième place. Ouais. C'est tout ce qui nous reste, hein. Vraiment en première ligue avec la bataille pour la relégation. Mais sinon, c'est tout ce qui nous reste entre Tottenham, Chelsea, Manchester United, Arsenal, plus les surprises Wolverhampton et Sheffield United. Donc, ça pourrait être intéressant en cas de victoire d'Arsenal de relancer encore un petit peu tout ça.
Chelsea qui a perdu effectivement cette semaine à domicile et qui voit donc sa quatrième place menacée. Un point d'avance sur Manchester, on l'a dit, 2 points d'avance seulement sur Tottenham.
Et 3. 3 sur Tottenham, non?
Non, 2 points d'avance, points puisque Tottenham a pris 1 point.
Ah oui, c'est vrai.
Il n'a pas suivi, on vient d'en parler juste avant. Ils ont pris 1 point contre Norwich.
Pardon.
Non, c'est pas grave.
Excuse-moi.
Non, mais me coupe pas dans ces cas-là.
Pardon. Pardon. Mes excuses les plus plates, François. Pardon.
Donc voilà, Arsenal-Chelsea, 15h, donc pour ce match de Premier League à suivre évidemment sur RMC, sur RMC Sport 1. Liverpool-Wolverhampton. Wolverhampton, alors ça c'est un match à pas rater. Honnêtement Julien, quand on a vu la performance de Wolverhampton hier contre City, la performance de Liverpool contre Leicester, ça promet du spectacle.
Ça promet. Alors Wolverhampton hier, c'est vrai, un retour incroyable, ils étaient menés 2-0. Alors ils ont joué quand même à 11 contre 10 pendant 80 minutes, hein, après l'expulsion de Derson dans les buts pour City. Donc ça les a forcément aidés. Mais c'est vrai que Raúl Jiménez, qui est un super attaquant, un super avant-centre, le Mexicain, c'est vraiment dans le travail pour l'équipe, dans les appels de bas, dans le jeu sans ballon, dans le jeu de haut but, c'est assez incroyable. Adama Traoré, Hulk, parce que c'est le joueur le plus musclé que j'ai vu dans avec Hakim Fenway, c'est le joueur le plus musclé que j'ai vu dans l'histoire du football.
Alors qu'il était tout fin quand il était au Barça. Tout fin.
Alors qu'il était au Barça, effectivement, il était beaucoup plus fin, mais là, et puis surtout la façon dont il percute avec le ballon, dont il prend des risques dans les dribbles, dans ses démordements, dans les centres, il y a du déchet forcément.
Il a utilisé Benjamin Mendy hier.
Et puis là, Benjamin Mendy, une erreur comme ça à ce niveau-là, c'est assez impardonnable. Donc, Wolverhampton, qui est devenue la deuxième équipe dans l'histoire de la carrière de Pep Guardiola comme entraîneur, simplement la deuxième équipe à faire le doublé, en gagnant 2 fois dans la saison domestique face à une équipe de Guardiola, après le Chelsea d'Antonio Conte en 2016-2017. Sinon, aucune autre équipe, quand il était à Barcelone ou au Bayern ou donc à City, n'a réussi à le battre 2 fois dans la même saison en championnat. Donc c'est assez incroyable quand même de la part de Wolverhampton et de Nuno, leur entraîneur. Et puis ça promet parce qu'effectivement, avec eux, ils sont capables d'aller à Liverpool et de jouer sans leur 3-4-3, sans avoir aucune pression, avec beaucoup d'insouciance, et d'aller essayer de bousculer cette équipe de Liverpool qui, pour l'instant, est quand même dans un fauteuil assez royal.
Et Julien, même pas 48 heures de récup pour les Wolves, alors que Liverpool, en plus, dans ce calendrier de malade, Liverpool, en revanche, les a. Ils ont joué.
Ils ont joué un jour de plus, eux. Ouais. Ils ont joué la veille contre Leicester. Mais ils reviennent du Qatar aussi. Hein. Ils sont passés quand même une semaine au Qatar.
Dans cette période.
On va noter quand même que Romain Saïs s'est quand même bien imposé dans cette équipe-là aussi.
Alors oui, il a retrouvé sa place de titulaire parce qu'il y a eu des blessés. Willy
Boly, joueur d'Angers.
De Clermont, éventuellement.
Willy
aussi.
Avec qui j'ai joué. J'en parle.
Ah oui, Damien, t'as joué avec lui. Pardon, Julien, vas-y.
Non, mais c'est un super joueur. Et c'est vrai que dans ce que lui demande Nuno, dans ce 3-4-3, encore une fois, de Wolverhampton, il est très efficace défensivement et même avec son pied gauche sur les diagonales qu'il faut pour changer le jeu, orienter le jeu, il est aussi très bon. Et c'est vrai qu'hier, il a fait un très bon match. Encore une fois, à 11 contre 10, mais quand même. Et c'est vrai que c'est intéressant. Ils ont un groupe intéressant. C'est une histoire fascinante, hein, Wolverhampton, qui est une équipe historique du football anglais ici, qui est descendue en 3e division, qui est remontée, qui a Jorge Mendes comme directeur sportif officieux et effectivement qui fournit énormément de joueurs à ce club. Sinon Ruben Neves ne serait jamais arrivé à Wolverhampton quand il était en Championship. João Moutinho serait pas là non plus effectivement, et Jiménez non plus. Mais Mendes fait du très très bon travail et c'est une équipe qui est toujours qualifiée en Europa League, qui la saison dernière a fait une très bonne saison et qui cette saison, alors qu'ils n'avaient pas gagné un seul match lors des sept premières journées, six premières journées, première victoire lors de la septième journée, fait aussi encore une fois un très très bon championnat.
Ouais, c'est une des équipes qui joue le mieux en Angleterre.
Il faut vraiment rendre hommage à Nuno Santos. Alors,
excuse-moi François Pinet, si on t'a pas suivi, hein, peut-être que tu l'as dit, mais Leicester joue contre qui demain? Ou Leicester a joué déjà?
Leicester a joué, oui. Je l'ai dit, Leicester a gagné à West Ham, 2-1.
Donc il y a toujours 13 points d'écart. Non, c'est revenu à 10 et ça peut repasser à 13 demain.
10, mais il y a deux matchs en moins pour Liverpool.
Oui, mais on est d'accord, voilà, Liverpool, c'est, Liverpool. C'est fait, hein, le titre.
Non, évidemment c'est... que c'est fait, mais il n'y a plus aucun intérêt à suivre. Enfin, il faut suivre les Reds en Champions, hein, du coup.
Bah, Liverpool, Wolverhampton, on te dit quand même qu'il faut suivre parce qu'il peut quand même se passer quelque chose.
Je pense qu'au niveau du jeu, ça va être super intéressant à voir, en tout cas, avec deux philosophies qui peuvent se ressembler, ça peut être sympa à regarder.
Voilà, ça sera à 17h30.
3-2 facile, hein.
Et puis merde, ça passe chez nous en plus, donc.
Exactement.
En plus, donc on va se régaler.
Non, mais François, pour que tu restes intéressé par Liverpool en championnat, il y a plusieurs objectifs. Bon, déjà, essayer de finir la saison sans défaite, comme les Invincibles d'Arsenal. Donc, ils ont joué 18 matchs, 17 victoires, un match nul. Est-ce qu'ils perdront un match cette saison? C'est la grande question. Je pense que oui, à un moment, parce qu'ils ont tellement de compétitions à jouer avec la Ligue des Champions, avec la Coupe d'Angleterre aussi. À un moment, ça va peut-être peser un petit peu dans les jambes pour la Première Ligue, mais c'est une des questions ici. Ils en sont à 34 matchs de suite sans défaite en Première Ligue. Le record d'Arsenal, c'est 49. Est-ce qu'ils arriveront à se rapprocher de ce record? C'est possible aussi. Klopp en a parlé encore aujourd'hui dans sa conférence de presse. Il y a cette série d'invincibilité à domicile aussi qui est encore plus longue. Ils en sont à 43 matchs, je crois, à Anfield sans défaite en Première Ligue. Est-ce qu'ils pourront se rapprocher du record de Mourinho avec Chelsea qui était de 64, je crois, à Stamford Bridge lors de son premier passage? Voilà, il y a tous ces records-là qui sont dans leur corde et qui pourront te permettre.
Tu prêches un convaincu, ok, par rapport à Liverpool et toutes ces statistiques colossal que tu nous énonces. Après, moi, dans cette période, une équipe avec 24 heures de récup de plus, quand c'est sur des deltas de un jour ou maximum 48 heures, je vais voir deux équipes de foot cramées pour voir des buts.
Liverpool a l'effectif pour faire un petit peu tourner, même s'il tourne rarement, remarque.
Quand on parle d'équité, Liverpool en plus a une profondeur de banc plus importante, donc ils ont un double avantage sur les Wolves. C'est que mon avis.
Il y a du mieux en Angleterre à ce niveau-là, dans le sens où, je crois qu'on en parlait avec Damien l'autre jour, que cette année on va avoir enfin une petite trêve. Certes, pas à Noël comme pour tout le monde, parce qu'encore une fois, les Anglais font rien comme les autres, mais il y aura une petite trêve qui va arriver au mois de février, où ils pourront se reposer un petit peu, notamment en vue de la Ligue des Champions, même si la saison dernière, comme Damien me l'avait rappelé, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de problème avec ça, puisqu'ils ont quatre clubs en finale. Mais voilà, ils vont avoir cette petite pause, mais c'est vrai qu'à Noël, et Klopp et Rodgers et Mourinho en parlaient encore cette semaine. C'est vrai que c'est
Klopp.
Un calendrier complètement hallucinant, quoi.
Klopp parlait pas de crime, c'est pas le terme, mais il disait que c'était criminel, voilà.
Ah, c'est suicidaire, oui, tout à fait. Non, mais après, c'est la culture, il faut faire avec, c'est pareil pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'après, t'as ces petits avantages par-ci, par-là, d'une journée de plus de récupération, parfois deux journées de plus. Et c'est vrai que ça peut quand même faire basculer des rencontres.
Et puis, alors, Manchester City, quand même, parlons du cas Guardiola. Manchester City, c'est contre Sheffield demain. A priori, Manchester City est largement favori. Guardiola qui a enterré les chances de son équipe d'être championne d'Angleterre. Mais là, on est tous d'accord avec lui, 14 points d'écart. Pour lui, c'est un écart trop grand. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ces deux chiffres, Julien. Il y en a un, c'était hier. Alors, c'est un cas particulier parce que Manchester City était à 10 contre 11 contre Wolverhampton. Mais 37,8%, c'est la possession de balle de l'équipe de Manchester City. C'est un record de la plus faible possession pour une équipe de Guardiola. C'est son record.
Ouais, mais à 10 contre 11 pendant 80 minutes, celle-là pour moi, elle veut rien dire du tout, cette statistique, parce que je veux bien que Guardiola soit un génie, mais c'est pas Harry Potter non plus, c'est pas un magicien.
Il a fait quand même des changements pour essayer de blinder derrière. Bon, après, il menait 2-0, effectivement, mais il a essayé
de. Oui, il menait 2-0.
Et c'est pas dans son habitude non plus de blinder, de jouer défensivement, ou en tout cas de laisser la balle à l'adversaire, même à 10 contre 11, enfin, je pense.
Peut-être, mais. Mais à 10 contre 11, c'est quand même pendant autant de temps, c'est compliqué. Contre une équipe contre Wolverhampton qui est très physique, qui a aussi beaucoup de ballon, qui joue très très bien au ballon, qui sait faire courir le ballon et donc faire courir ton équipe à toi, qui a déjà un joueur de moins, c'est compliqué. Pour moi, cette stade, elle veut vraiment rien dire. Après, effectivement, il a peut-être fait des erreurs dans son coaching. Moi, j'ai du mal à comprendre comment il a pu sortir Kevin De Bruyne alors que son équipe menait 2-1, que c'était le seul joueur qui t'avait apporté une touche technique brillante sur le deuxième but de Sterling, notamment avec cette ouverture incroyable en une touche de Bruyne. Si vous l'avez pas vu, il faut vraiment aller regarder parce que c'est un but exceptionnel. La passe de De Bruyne pour Sterling, elle est extraordinaire. Et le fait que tu le sortes, alors que c'est ton joueur un qui a peut-être le plus gros moteur physique pour couvrir les espaces justement quand t'es à 10 et surtout techniquement, ouais, mais... et ton meilleur joueur bien meilleur que Rodri, j'ai pas trop compris pourquoi il a sorti. Après, effectivement, c'est une défaite. Je pense qu'il y a des statistiques et des chiffres, François, oui, qui traduisent plus la crise entre guillemets que ce que
oui, c'est... alors ouais, après il y avait d'autres chiffres, c'est les 5 défaites cette saison, il y a aussi le chiffre de nombre de buts encaissés, 23 en 19 matchs de Première Ligue,
c'est important, celui-là.
C'est déjà autant que sur l'ensemble de la saison dernière.
Julien, le vrai problème de cette équipe, c'est que derrière ils ont pas des défenseurs qui sont au niveau de la qualité du reste de l'effectif.
Yeah, c'est un problème aussi. Alors, je pense pas que Guardiola soit le seul fautif, mais il en fait partie. Au niveau du planning et de l'organisation par rapport à cet effectif qui, un, est vieillissant sur certains postes, notamment Fernandinho, qui avait été remplacé entre guillemets, on va dire, par Rodri. C'est
Otamendi
sûr,
aussi, hein.
Mais Otamendi, c'est très compliqué. John Stones, c'est très compliqué. À partir du moment où Laporte est plus là, c'était la crise défensivement. À gauche, que ce soit Zinchenko, Benjamin Mendy ou Fabian Delph, même avant qu'il quitte le club, ça aussi est très compliqué. Et je pense que dans le planning de la part de Chiqui Begari, directeur sportif du club, et de Guardiola sur comment construire cet effectif là, il y a eu des grosses erreurs de fait dans le recrutement de certains qui n'ont pas été au niveau.
Ou Stone, en tout cas, dans s'ils le prennent combien?
Ils le prennent à Everton pour 50 millions.
Et t'imagines? Ouais.
Après, ils ont sûrement pensé qu'il allait progresser plus que s'il a progressé.
Le souci aujourd'hui, c'est que dans le style de jeu que veut Guardiola, à savoir être très haut sur le terrain, et je me répète, mais c'est vrai qu'ils sont mis en danger dans chaque ballon en profondeur. Dès que t'as un ballon dans le dos et que t'as des bombes devant, comme c'était le cas à Leicester avec Vardy, ils sont en difficulté. Et là, on parlait des buts encaissés, mais ça aurait pu être, mais bien sûr, avec
les Arsenal. La passe, elle est plein d'axes. Hein.
Mais surtout, ça peut être beaucoup plus que ça. Ils peuvent encaisser plus que ça. Ils s'en tirent très bien même.
C'est une difficulté. Oui, tu le dis, et c'est une double difficulté compte tenu des axiaux, enfin des deux centraux,
c'est ça.
Qui sont.
Bah, c'est ça le problème. Oui.
Faire le boulot.
Le problème, c'est qu'il faudrait, qu'ils prennent. Hein. Je pense que là où ils se sont trompés, c'est dans le profil des défenseurs centraux qui sont recrutés, que ce soit Laporte ou Stones. T'as besoin d'un mec qui soit hyper rapide quand même. Au moins un sur les deux qui puisse aller en couverture justement pour éviter de se faire prendre dans le dos comme ça là.
50 mètres dans le dos.
Il t'en faut au moins qu'il soit rapide.
Ce qui leur a fait très mal aussi, c'est le fair play financier. Sincèrement, Guardiola cet été expliquait qu'ils auraient voulu prendre Maguire, qui est parti donc pour 90 millions à Manchester United.
C'est pas le plus rapide. C'est pas le plus rapide financièrement.
Non, mais peu importe. C'est plus sur le fait que il y a sûrement eu des transferts qu'ils auraient voulu faire, qu'ils n'ont pas pu faire à cause du fair play financier. La période où Manchester City pouvait dépenser 200 millions d'euros sur un été en transfert, c'est terminé, ça. Ils le savent très bien. Ils ont l'UEFA, la fédération anglaise, la Premier League, qui sont derrière eux parce qu'ils ont justement le fair play financier. Et les comptes qui sont pas vraiment équilibrés, et ça, je pense que ça pourrait leur faire très très mal à un moment s'ils faisaient pas attention justement, et c'est ça aussi qui les a empêchés peut-être de recruter les joueurs qu'ils voulaient lors du dernier marché des transferts, et peut-être qu'il les empêchera aussi lors du mois de janvier là de faire ce qu'ils veulent au niveau du recrutement.
Ouais, mais Guardiola est toujours à la, alors évidemment il se renie pas, mais il est toujours dans cette limite du déséquilibre. Parce que j'ai la possession, parce que j'ai un jeu offensif, parce que mes joueurs, j'ai de la qualité devant, mais je prends trop de risques derrière. Alors ça fait le charme de cette équipe, mais ça fait aussi les résultats que l'on a et les statistiques qu'on a énoncées tout à l'heure par rapport à une défense qui est une passoire.
Et puis aussi, sincèrement, je pense que psychologiquement, mentalement déjà pour les joueurs, pour Guardiola aussi, physiquement aussi, après les deux saisons qu'ils viennent de faire à 100 points et à 98 points,
oui,
faire une troisième saison à ce niveau-là, c'était impossible. Sincèrement, c'était impossible. Il y a forcément un moment où ton corps et ta tête, elle répond pas forcément de la même façon au même contexte dans les matchs, aux mêmes situations et t'as peut-être aussi un peu moins de réussite que t'avais l'année dernière ou celle d'avant. Par exemple, ils ont déjà perdu 19 points cette saison. Ils ont lâché 19 points en route.
C'est
cette
énorme.
Saison, en 19 matchs, donc. Ce qui est déjà plus que toute la saison dernière réunie, où vous avez perdu que 16 points.
Ouais.
Et ça rappelle un petit peu la première saison de Guardiola, où il avait eu du mal un petit peu à s'adapter au football anglais. Et par rapport aux deux dernières saisons, c'est vrai que c'était quasiment impossible qu'il soit capable de refaire une troisième saison pareille.
Est-ce que, justement, le fait qu'ils soient décrochés et qu'ils aient dit adieu au titre de champion, ça peut les rendre encore plus dangereux pour la Ligue des Champions?
Ils jouent le Real, on le rappelle.
C'est quelque chose derrière lequel court Guardiola depuis un moment, ça peut être pour le coup dangereux pour les équipes qu'ils vont affronter en Ligue des Champions. N'en t'y crois pas, toi, Jonathan?
6.
Vas-y, Julien.
Non, mais juste c'est, oui, bien sûr, parce que de toute façon, c'est le graal absolu, c'est le rêve et de Manchester City et de Pep Guardiola. Pep Guardiola qui, donc, comme tu l'as dit, n'a plus gagné depuis 2011 la Ligue des Champions, qui va d'échec en échec, que ce soit en demi-finale, comme avec le Bayern, par exemple, systématiquement contre un club espagnol, ou avec City en quart de finale, que ce soit contre un club anglais. C'est compliqué pour lui. C'est vrai que c'est le rêve ultime pour lui de retrouver ce sommet-là. S'il continue à défendre pareil avec ses défenseurs-là, c'est impossible. Mmh. Même si tu peux te sortir peut-être du Real Madrid avec le match retour à domicile, je vois pas comment après, quand le niveau va encore s'élever.
Julien,
c'est pas
possible. Ça sera trop compliqué. Julien, je pense que le Real Madrid, en termes de style, tu vois, je te dis pas que le Real Madrid est une meilleure équipe que Manchester City, mais en termes de style, c'était un des pires tirages que City pouvait prendre. C'est parce que ils vont à 1000 à l'heure devant, en contre, ils sont très très forts. Et quand tu vois la vitesse qu'ils peuvent mettre sur les côtés et la manière dont ils ressortent les ballons et en contre-attaque, va falloir vraiment resserrer les boulons derrière pour City.
Ça va être très compliqué. Et puis après aussi, tout ce que ce match va représenter pour Guardiola, pour lui, le porte-parole de l'indépendantisme catalan, tout ça, de retourner à Madrid pour le premier match où tout le monde ne parlera que du côté politique et pas du tout du côté sportif. Je pense que ça va le rendre fou. Ça va être c'est un match piège par définition. Et alors, si tu te fais en plus éliminer en huitième de finale de la Ligue des Champions et que t'es déjà largué à 20 points de Liverpool au mois de février, je pense que là, le pauvre Pep, il va sauter du 20e étage et
Il a dit qu'il restait.
Et puis le club l'a confirmé encore aujourd'hui.
Après, les dirigeants.
Ouais, mais c'est. Hey. Non, ce serait quand même un peu gonflé, ouais.
Ce serait énorme. Après, ça fera 4 saisons. 4 saisons, c'est le maximum qu'il a fait donc à Barcelone avant de prendre son année sabbatique. Il a fait 3 ans après au Bayern, 4 ans à Manchester City. Il se plaît quand même en Angleterre, il se plaît à City, mais cette saison, elle peut laisser énormément de traces. S'il y a vraiment cette désillusion en Ligue des Champions contre le Real, si en plus tu te fais humilier par Liverpool et que tu perds encore plus de points dans la seconde partie de saison et que tu finis 3e ou 4e par exemple, ce qui est très possible, je sais pas comment lui va gérer ça, lui avec son côté obsessionnel du football, obsessionnel des résultats, obsessionnel de la façon de jouer. Ça pourrait être très compliqué pour lui cet été.
Ok, Julien, merci beaucoup. Merci.
Salut,
pour
Julien.
Ce tour complet de la 20e
merci
journée.
Merci à vous, bon quiz, Julien.
Merci. Ciao. Écoute,
bon samedi soir à tous.
Et puis tu peux jouer si tu nous écoutes aussi. Voilà. Enfin, tu peux jouer, mais pas à l'antenne, quoi, évidemment. Merci, Julien. On se retrouvera demain, évidemment, pour parler donc de ce Arsenal, Chelsea, Liverpool, Wolverhampton et Manchester City, Sheffield. 3 affiches à suivre en Première Ligue demain sur RMC Sport 1 et sur RMC Sport. Tout de suite, le quiz. Arthur Robert nous a préparé un quiz. Et si vous voulez jouer, 32-16, si vous voulez jouer avec nous, à tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, François Pinet.
23h46, on est encore ensemble pour un quart d'heure dans l'After, toujours avec François Manardo, Damien Perrinel, Jonathan Macardy, Julien et Guillaume, sont au 32-16 pour jouer avec le quiz d'Arthur Robert dans un instant. Juste cette information, Thiago Motta, limogé. Voilà, il y a un autre coach après Pellegrini, Jardim. C'est Thiago Motta qui a appris qu'il ne serait plus l'entraîneur du Genoa, lui qui a été nommé le 22 octobre dernier. Son équipe est Lanterne Rouge de Serie A. On y va pour le quiz. C'est parti avec ce soir Julien et Guillaume au 32-16. Salut Julien.
Salut.
Salut Julien.
Bonsoir Julien.
Alors tu veux jouer avec qui? François Manardo, moi-même, Jonathan ou Damien? Jonathan. Julien avec Jonathan. Le micro, Jonathan, ça sera mieux.
Allez, Julien, on est motivé.
Et Guillaume est avec nous. Bon, Salut Guillaume.
Salut Guillaume. Salut.
Alors, tu veux jouer avec qui ? François Manardo, Damien ou moi-même ?
Je mettrai avec Damien, du coup.
Très bien. Personne ne nous choisit, t'as remarqué, François. Vu, François là, c'est un petit peu vexant. Très bien. Arthur Robert est là. Salut, Arthur.
Bonsoir, messieurs.
C'est lui, le grand maître de cérémonie. Et ben, on y va, hein, c'est parti.
C'est parti. Donc, je vais pas chercher bien loin. Ça va être un quiz spécial sur l'année 2010.
Oh !
Putain, j'étais même pas né, moi, arrête. Première question. Qui est le meilleur buteur de l'équipe de France sur l'année 2010 ?
Gignac !
Non.
Benzema !
Non, Benzema, Jonathan.
Mais oui, c'est Benzema, évidemment.
Allez, Julien.
Ouais.
1-0 pour l'équipe, hein, Jonathan, Julien. Deuxième question. Qui est le joueur le plus sélectionné avec les Bleus en 2010 ?
Diarra !
Valbuena.
Non.
Lloris.
Lloris.
Non. Mandanda. Coupé.
Non plus, messieurs. Non. Evra. Non.
Rami.
Non.
Malouda.
Malouda.
Yes.
Domenech, forcément.
2-0 pour l'équipe. Jonathan, Julien, allez, François, 0. Damien, Guillaume, 0.
Julien,
François,
on se réveille, hein,
0.
Ouais. Allez, Damien.
Troisième question. Qui a remporté la Coupe de France en 2010 ? Paris.
Lille.
Ah, c'est Damien.
Oh, mais c'était facile, moi je cherchais Guingamp comme ça. Bien sûr,
je redonne les scores. Paris. Du coup, 2 pour Jonathan, Julien, 1 point pour l'équipe Damien, Guillaume et 0 pour les autres. Paris s'était imposé 1-0, c'était face à Monaco, qui était l'unique buteur de la rencontre.
Néné.
Non,
Paul Etta.
Non plus. Camero.
Bernard Mendy. Dorasso.
Non.
Non.
Giannis.
Non, je vais vous donner un indice. Il a été meilleur buteur de Ligue 2.
Waro.
Qui a dit Waro ?
Il l'a dit avant.
C'est Julien.
Waro, c'est
Julien.
C'est Guillaume.
C'est Julien.
C'est Guillaume.
C'est Guillaume. Attention, Jonathan, je peux enlever des points. Attention.
Déjà, il doit avoir moins 1.
Bon, François, on s'en va là ? On les laisse ou pas ? Qu'est-ce qui se passe ?
Je te dis, c'est l'endroit.
0-0.
Je redonne les scores. Donc 2, Jonathan, Julien, François, 0. 2 pour Damien et Guillaume. Et 0 toujours pour François. Qui était l'entraîneur de Monaco à l'époque ?
De Monaco. Lacombe.
Guy Lacombe.
Guy Lacombe. Oui.
C'est bon pour François.
Il est là, le point.
Bravo François,
bien sûr, côté, je m'en souviens, 2010, un grand entraîneur.
Vous étiez, moi j'étais.
Il y a beaucoup de choses que je vais oublier de 2010.
À 2010, c'est ton année. Le quiz est pour toi.
C'est ton année, mais
le quiz est pour toi.
Mon année 2010.
Qui était le meilleur buteur de Première Ligue lors de la saison 2009-2010? Drogba, c'est bon.
Bravo. Bien joué. Bravo.
Elle est belle, Damien. Bravo.
Donc Damien qui prend la tête avec Guillaume, 3 points, 2 points pour Jonathan, 1 point pour François et 0. Pour
là, on est pris par le
Monsieur
temps. Le
Manardo.
Jeu s'arrête apparemment. Il y a breaking news là.
Breaking news.
Attention, messieurs. Question BFM TV.
Oh non.
Bah, je l'ai volé, Adrien Aigouin.
Ouais, bravo.
Question BFM TV. En 2010, qui était le Premier ministre de la France ?
2020.
Non.
Raffarin.
Non plus.
2010.
Raffarin.
C'est
2010.
Horrible.
Fillon.
C'est Fillon.
C'est bon.
Fillon, je suis con. Quoi. Pourquoi
égalisation de l'équipe Jonathan, Julien.
Aucune mémoire.
3 points. 1 point pour François Pinet. 3 points pour l'équipe Damien Guillaume. Et toujours 0 pour Manardo. François Manardo. C'est son année 2010. Ça continue. 8e question. Qui est le meilleur buteur français en Ligue 1 lors de la saison 2009-2010 ?
Balbuena ?
Non.
Benzema ? Nyang.
Non, Ben Arfa, non, même, j'ai dit français.
Il n'est pas français.
Mamadou Niang est le meilleur buteur de Ligue 1 cette année-là avec, non, 10, non, avec 18 buts. Benzema. Qui est le meilleur buteur français ?
Benzema.
Non.
Non, il est déjà
au il est parti. Oh, non plus, non. Pas Waro.
Ben Arfa.
Meilleur buteur français, Gamero.
Gamero.
Je l'ai dit.
Non. C'est scandaleux. Scandaleux, attention. Monsieur McCarthy, je peux vous retirer un point pour ça.
Mais quelle honte. Mais c'est scandaleux cette demande.
François, 2 points.
Oui.
Jonathan, Julien, 3 points. Damien, Guillaume, 3 points. François.
T'en viens pas à 0.
Messieurs, alors ça va être une enchère. Les auditeurs n'ont pas le droit de jouer. L'horreur. Donc va falloir, voilà, vous prenez le temps pour noter. Guillaume, ça va être une enchère.
Vous ne jouez pas.
3 points en jeu. Les joueurs ayant disputé la finale de la Coupe du Monde 2010. On va commencer par toi, François. Combien tu peux m'en donner ?
10. Combien je peux en donner ?
François Binet d'abord. Combien tu peux en donner ?
Je peux en donner
1, 2.
Ah oui,
débuter
je peux
par...
en donner 5.
5.
6.
6. François Manardo.
J'ai dit 10.
10. Ouah, 10 directement. Jonathan. 11. 11. François Binet, est-ce que tu votes dessus ou tu laisses la main ?
Je dis.
N'y crois moyennement. Hein.
Ouais, je laisse la main.
Bon, fin de la supercherie, Binet.
Non, ouais. Pas mieux.
Damien, ok. François.
Ouais, c'est 12.
12.
Je laisse.
Tu laisses la main. François, je t'écoute.
Alors, Ariane Robben.
Robben, c'est bon.
Schneider.
Schneider, c'est bon.
Puyol.
Puyol, c'est bon.
Iniesta.
Iniesta, c'est bon.
Évidemment, Iniesta. Xavi.
Xavi, c'est bon.
David Silva.
David Silva. David Silva, je vérifie, mais David Silva, c'est pas bon, malheureusement. David Silva qui n'est pas là. David Silva qui n'est pas là, je vais redonner la compo de l'Espagne. David, c'est éliminatoire, évidemment. Iker Casillas, Gérard Piqué, Carles Puyol était là. Il y avait David Villa. Ouais. Il y avait Capdevila, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Sergio Busquets, Pedro. Et parmi les entrants,
Torres.
Jesús Navas, Cesc Fabregas et Torres. Tekalenburg, Grégory Van Der Wiel, Ettinga, Matijel, Giovanni Van Bronckhorst, Mark Van Bommel, Dirk Kuyt, Nigel De Jong, Robin Van Persie, Elia Van Der Vaart et Brad Feld.
Ça fait... C'est
donc ça.
Ça
fait quoi? Ça fait moins 3?
Alors ça fait pas moins 3 pour François, mais ça fait... Alors,
non, quand même, attends, tu ne veux pas m'enlever les points.
Non, ça fait 6 points pour Jonathan et Julien, ça fait 4 points pour François Pinet, ça fait 6 points pour Damien et Guillaume et toujours 0 point pour François Manardo. En 2010, qui est élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010?
Sneijder.
Non.
Xavi.
Xavi. Robben.
Non.
Iniesta.
Non, voilà. C'est un joueur qui est passé par Manchester United.
Van Persie.
Non.
Non.
Ah, par Manchester United.
Sneijder.
Non. Non. Il est passé à l'Inter de Milan aussi. Farlan, c'est bon.
Bravo. Oh putain, elle est belle. Bravo, François.
5 points pour François. Pinet qui revient à une longueur du coup de Jonathan et Julien avec 6 points et de Damien et Guillaume avec 6 points et toujours 0 pour François Manardo.
L'équipe de France en...
On s'en fout, c'est pas la question.
Allez, je l'aime, Florent Malouda.
D'ailleurs, l'Uruguay, ils sont dans notre groupe, je crois.
Oui, exactement. Et on fait 0-0.
Ouais. Tout à fait.
Qui était le sélectionneur du Brésil lors de la Coupe du Monde 2010?
Scolari.
Non.
Non, Pereira.
Non plus.
Non.
Dunga.
Bien joué.
C'est bon.
Bien joué.
Pour Jonathan et Julien, 7 points. 5 points pour François Pinet et 6 points.
Ah, j'ai essayé.
T'es pas d'une grande aide là, Julien. Julien.
Il reste 3-30.
Allez.
Allez, il reste 3-30. Ça va être une enchère encore. Donc, les auditeurs, malheureusement, vous n'avez pas le droit de jouer. Enchère, finale de la C1. Or, Bayern Munich-Inter. Une finale remportée 2-0 par l'Inter. Combien de joueurs ayant participé à la finale vous pouvez me citer?
On l'a fait ça déjà.
Non.
Bah non, non, non.
Ah bah, tu vas être bon dans ce cas. Combien tu peux en citer?
5.
5.
6.
6.
7.
7.
7.
7. Tu vas au-dessus de 7 ou pas? Il y a eu 7 du côté d'Adam.
Toi aussi?
Ouais. 7 du côté de Damien Perrinel. François Manardo, est-ce que tu vas au-dessus? Allez, 5. 4. 3.
Non.
2. Très bien. Jonathan Maccardi.
8.
8. François Pinet.
9.
9 pour François Pinet. Tu laisses la main. Damien Perrinel laisse la main. Jonathan, est-ce que tu veux 10. 9. 10.
Vas-y sur les 10.
Les 10, allez, c'est parti.
Julio César.
Julio César, c'est bon.
Diego Milito.
Diego Milito, c'est bon.
Samuel Eto'o.
Samuel Eto'o, oui.
Walter Samuel.
Walter Samuel, c'est bon.
Marco Materazzi.
Marco Materazzi, c'est bon.
Il entre en
Javier Zanetti. Javier Zanetti, c'est bon.
Esteban Cambiasso.
Oui.
Ariel Robben.
Ariane Robben, c'est bon.
Franck Ribéry.
Franck Ribéry. Et non, c'est pas bon, il est suspendu.
J'en ai 5 en plus.
Franck Ribéry. Suspendu, Franck Ribéry.
Arben Robben aussi.
J'en ai 5 en plus. Suspendu.
Pandef, il y avait Pandef, non?
Il y avait, alors, je vous l'ai donné. Il y avait Maicon, Lucio, Kivu. Oui. Schneijder, Pandev, et parmi les entrants, il y avait aussi Stankovic et Muntari. Oui. Du côté du Bayern Munich, c'était Batogol, Philippe Lahm, Van Buten, Demichelis, Batstuber, Marc Van Bommel, Bastian Schweinsteiger, je vais y arriver, Thomas Müller, Altintop, Ivica Saulic, Miroslav Klose et Mario Gomez rentrent en jeu.
Putain, désolé.
Alors, donc, attendez, je vais faire le point sur le score.
Très
je fais le point sur les scores. Donc, du coup, ça donne Jonathan 7 points, François Pinet 8 points.
Bravo.
Damien Guillaume, 9 points.
Allez.
Et François Manardo, 0.
Allez.
C'est la dernière question.
Ah là là, j'ai chié
dans dernière question
là.
Pour voir si François égalise. Sinon, c'est victoire.
Sinon,
de
c'est Guillaume et Damien.
Et Damien. Bah, tiens, on va s'attaquer à la sélection espagnole. Vu que Moreno, c'est un sélectionneur, on est dans l'actualité, c'est magnifique.
Question à 3 points là.
Non. Qui est le meilleur buteur de la sélection espagnole?
David Villa.
David Villa. Bravo. J'avais David Villa de ce côté-là. Donc victoire.
Bravo Damien.
Victoire.
Bravo Damien.
Bravo.
Tu restes quand même très déficitaire sur la semaine, mais c'est pas grave.
Guillaume. 2-2.
Guillaume, bravo. C'est dans tes règles. Il y a 3-2. Il y a 3-2.
Dans le football.
Il y a les deux. On dit bravo à Guillaume.
Il y a 3-2.
Je ne paye à personne.
Guillaume, tu peux remercier Damien.
Il a pas. Bravo
Guillaume. On t'envoie un t-shirt.
Par contre, tu fais des bisous au Cupani.
Tu reviendras. Merci. Bonne soirée à toi. Tu reviendras pour jouer dans l'after. À bientôt. Bonne soirée.
J'adore essayer la panique.
Merci beaucoup, Arthur. C'était top ton quiz. Merci François. Merci Damien. Merci Jonathan. À bientôt. L'after qui revient demain sur RMC. Alors passez une très très bonne soirée sur RMC. On revient demain après le match de rugby Toulouse-Toulon qui sera à suivre en direct et en intégralité sur RMC. À demain sur RMC. Bonne soirée.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
This is the sound of an express service from Mercedes-Benz Cars. Two of our expert technicians working exclusively on your Mercedes-Benz while you sit back and enjoy a complimentary coffee on us. All it takes is as little as an hour of your day. The whole process is quick, easy and hassle-free. Get an instant quote online and book a time that suits you. Simply search my service and book yours today. And before you know it, you'll be on your way. Subject to the service required at participating retailers only, terms and conditions apply.